France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, fondamentalement, qu'est-ce que l'énergie ? Le terme « energeia » désigne en grec la force en tant qu'elle est en action. Aristote, pour ne citer que lui, la concevait comme le passage de ce qui est en puissance à ce qui est en acte. En langage plus moderne, nous dirions que l'énergie mesure la capacité à produire des transformations. Il peut s'agir de fournir du travail, de créer du mouvement, de modifier la température d'un corps ou de changer l'état d'un morceau de matière. Au motif que ce mot appartenait déjà au grec ancien, on imagine volontiers que le concept d'énergie a toujours fait partie du vocabulaire scientifique. En réalité, le mot ne s'est vraiment imposé dans le vocabulaire des physiciens qu'au XIXe siècle, lorsqu'ils ont pu établir que l'énergie obéit à une règle implacable, une loi de conservation. Qu'est-ce à dire ? Lorsque deux systèmes interagissent, ils échangent de l'énergie. Au cours de l'interaction, la somme des variations d'énergie dans le premier système se trouve toujours être l'opposé de la somme des variations d'énergie dans le second, de sorte que l'énergie totale est conservée. Reste que cette propriété qu'a l'énergie de se conserver en toutes circonstances ne suffit pas à révéler sa nature profonde. Alors posons-nous cette question qui est moins naïve qu'elle en a l'air. Qu'est-ce au fond que l'énergie ? La physique contemporaine, avec ses volets quantiques, relativistes et cosmologiques, permet-elle aujourd'hui de clairement saisir son essence ? Pour répondre à cette question délicate, j'ai le plaisir de recevoir Marc Lachaiseraie. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien, directeur de recherche émérite au CNRS, et vous venez de publier chez Dunod un livre intitulé « Insaisissable énergie ». Ce titre m'interpelle, Marc Lachaiseraie, puisque insaisissable sous-entend que vous n'avez pas réussi à identifier la nature profonde de l'énergie.
Très bien, justement le titre est fait pour interpeller, donc ça tombe très bien. Mais c'est pas vraiment moi qui l'ai trouvé, c'est plutôt mon éditrice. Mais je le trouve parfaitement adapté, parce que c'est vrai, l'énergie est insaisissable, et dans deux sens différents. Dans un sens pratique, c'est-à-dire que nous sommes dans une civilisation qui est désespérément désireuse de trouver de l'énergie pour la consommer. Et pour consommer tout court, et c'est pas si facile, et l'énergie, on a du mal à la trouver, à l'extraire, à la transformer, à l'utiliser, donc dans ce sens-là, elle est en partie insaisissable, mais c'est pas vraiment ce qui m'a intéressé dans ce livre. C'est une autre problématique qui est de répondre à la question effectivement naïve que vous avez posée, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est au fond, qu'est-ce que c'est fondamentalement l'énergie ? Quelle est sa vraie nature, pour autant qu'elle en ait une, puisque finalement c'est un concept, c'est une création humaine, mais on peut penser que ça a un sens physique profond. Et je dirais, c'est celui-là que je cherche, que j'ai cherché en écrivant ce livre, et finalement, j'ai pas réussi à le saisir. Les lecteurs pourront se faire une idée de la manière dont on cherche justement à saisir l'énergie, mais je crois que on est obligé d'accepter la conclusion que c'est largement insaisissable. Et bon, l'énergie, c'est un concept qui est utilisé dans notre vie courante, qui a été introduit à l'époque, au début de l'ère industrielle, pour justement arriver à mieux comprendre et exprimer ce qui se passe dans les machines, par exemple, sans qu'on sache vraiment ce que ça représentait. Mais ça s'applique très bien là-dedans, mais quand on cherche à la justifier, à vouloir comprendre ce que ça veut dire, au fond, fondamentalement, comme vous le dites, mais là, c'est très difficile. Et on voit qu'il faut se tourner, d'une part, vers la physique moderne la plus élaborée, c'est-à-dire la relativité, et son pendant, au contraire, la physique quantique, parce que l'énergie, qu'est-ce que ça devient aux grandes échelles, qu'est-ce que ça devient aux petites échelles. Et là, on s'aperçoit que le terme perd, je vais pas dire qu'il perd son sens, mais il change de sens et il perd, je dirais, son aptitude à rendre compte des choses. C'est un peu compliqué.
Alors justement, Marc Légeret, vous dites dans votre livre que vous vous en tenez à la physique, à ce que la physique dit de l'énergie. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on parle de l'énergie d'une façon qui rende justice à ce que nous savons d'elle? Par exemple, vous-même, vous avez employé l'expression « production d'énergie » ou « consommation d'énergie ». Mais à partir du moment où l'énergie se conserve, est-ce qu'on peut dire qu'on en produit? Puisque la condition pour en avoir, c'est finalement d'en avoir déjà.
Alors, il y a une réponse très simple à tout ça. C'est que ce qu'on appelle énergie dans la vie courante, c'est pas vraiment l'énergie. C'est plutôt, je dirais, la portion de l'énergie que nous savons utiliser. Bon, je prends un exemple tout simple. Par exemple, un kilo de pétrole, ou on pourrait dire la même chose d'un kilo d'uranium ou ce que vous voulez, ça représente une énergie en fait énorme. Parce que, j'anticipe un peu, mais les théories relativistes d'Einstein nous ont appris que l'énergie et la masse, c'est la même chose. Donc, on va dire que un kilo d'uranium, un kilo de pétrole et un kilo de gravat, ça représente exactement la même énergie. Mais essayez de tirer de l'énergie utilisable d'un kilo de gravat, vous allez avoir du mal. Un kilo de pétrole, vous en tirerez un petit peu plus, quelques milliardièmes. D'un kilo d'uranium, quelques millionièmes. Donc chaque fois, ce qu'on appelle en général énergie, et ce qui nous intéresse dans la vie courante, c'est évidemment la portion que l'on sait utiliser. Donc quand on parle de l'énergie d'un kilo de pétrole ou d'un litre de pétrole, eh bien, on fait allusion à la portion, donc je répète, de l'ordre de quelques milliardièmes, que l'on va pouvoir utiliser en brûlant ce pétrole.
Pour donner un exemple, l'explosion de la bombe d'Hiroshima a transformé seulement un gramme de matière en énergie.
Voilà, donc un gramme de matière, ça représente une énergie capable de dévaster une ville.
Et pourtant, on mange quasiment un kilogramme de nourriture à chaque repas.
Voilà, mais...
Pourquoi est-ce qu'on mange autant?
On ne sait pas complètement l'utiliser. Bon, effectivement, tout ça c'est très bien parce que ça nous montre que la notion d'énergie intervient dans tous les échanges. Aussi bien l'explosion d'une bombe que un moteur qui fait fonctionner notre voiture, que ce qui nous permet de ce qui sous-tend notre métabolisme, nos gestes, nos actions, etc. Sans arrêt, il y a de l'énergie. Et on voit bien il y a quelque chose qui s'échange parce que si la nourriture nous donne de l'énergie, ça veut dire que dans la nourriture, il y a de l'énergie. Mais d'où vient cette énergie de la nourriture? Qu'est-ce que c'est que la nourriture? En général, ce sont des végétaux ou des animaux. Bon, ben, les végétaux, ils s'accumulent de l'énergie. Mais, comme vous l'avez
dit. Est-ce qu'on peut dire que tout vient du soleil, finalement? Enfin, voilà. Du rayonnement solaire. Vous citez d'ailleurs.
Une très grande partie.
Un Hongrois, un prix Nobel de chimie 1937. Je suis pas sûr de bien prononcer son nom. J'essaie quand même. Albert Svent Georgi.
Oui, bon, je suis pas un spécialiste en
droit. Prix Nobel de chimie donc en 1937 et qui a écrit « La vie est un petit courant électrique alimenté par le soleil ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là?
Ce qu'il veut dire, alors je sais pas, j'ai pas lu dans son esprit, mais c'est vrai que presque toute l'énergie que nous utilisons et que nous utilisons aussi dans notre métabolisme, dans notre vie, dans toutes nos actions, elle provient en première, disons en premier chef, du rayonnement solaire. Les végétaux, ils accumulent de l'énergie qui va servir dans notre alimentation à nous permettre à nous alimenter, justement. Et cette énergie, c'est l'énergie du rayonnement solaire, qui est transformée par les végétaux en éléments chimiques. Donc, les végétaux sont chargés d'énergie chimique, et l'énergie chimique, c'est une forme de ce qu'on appelle de manière plus générale l'énergie de liaison, parce que l'énergie chimique, c'est l'énergie qui est liée aux liaisons chimiques. L'énergie nucléaire, c'est l'énergie qui est liée aux liaison nucléaire, l'énergie gravitationnelle, c'est l'énergie qui est liée aux liaisons gravitationnelles. Bon, donc chaque fois, c'est quelque chose qui a emmagasiné de l'énergie et toute l'énergie que nous utilisons à l'exception, dirais-je, peut-être de l'énergie des marées encore, que ça vient aussi du soleil via la gravitation, et l'énergie nucléaire, ça vient du soleil de manière très indirecte. Par exemple, l'énergie d'un barrage, on n'a pas l'impression que ça vient du soleil, mais si, parce que c'est l'eau de mer qui est évaporée par la chaleur du soleil, quand le rayonnement soleil atteint la mer, ça évapore l'eau, ça fait des nuages, les nuages vont se refroidir, faire de la pluie, qui va déposer une grande masse d'eau qui va former une retenue en altitude, et comme cette retenue est en altitude, elle possède une énergie gravitationnelle, quand on la fait descendre dans une turbine, eh bien, ça fait tourner justement la turbine qui va donner de l'électricité, et une partie de l'électricité provient donc de l'énergie solaire.
Alors le rendement de la photosynthèse, le mécanisme par lequel les plantes captent une partie de l'énergie du soleil, il est quand même très mauvais, c'est quelques pourcents, 3% je crois.
Mais on s'en fiche, parce que l'énergie solaire justement...
Elle est abondante.
Il y en a, oui, et puis ça fait quelques milliards d'années que ça dure. Donc les végétaux accumulent en permanence de l'énergie comme ça, et certains se sont fossilisés, et c'est ça qui a donné le charbon, le pétrole, le gaz naturel, etc. etc. Donc, même quand on brûle du pétrole, on utilise de l'énergie solaire qui a été emmagasinée sous forme chimique par les matériaux, et puis leur fermentation et leur fossilisation.
Alors, vous passez une partie de votre livre, Marc Lachaiserey, à raconter l'histoire de la naissance, enfin de la mise sur pied de la thermodynamique, qui est une science assez fascinante quand on y réfléchit bien. Vous citez notamment Sadi Carnot, alors le physicien, pas le président de la République.
Je crois que c'est son cousin.
C'est son neveu ou cousin, je ne sais plus.
Je ne sais plus.
Enfin, il y en a un qui était assassiné, lui, il est mort du choléra à l'âge de 36 ans, mais à 27 ans, en 1824, il a publié un livre sur la puissance motrice du feu, dans lequel, modulo un petit changement de vocabulaire, puisque le sien n'était pas complètement adapté, on retrouve toutes les lois de la thermodynamique. Par exemple, il dit « La chaleur n'est autre chose que la puissance motrice, ou plutôt que le mouvement qui a changé de forme. C'est un mouvement dans les particules des corps. Partout où il y a destruction de puissance motrice, il y a en même temps production de chaleur en quantité précisément proportionnelle à la quantité de puissance motrice détruite. » Alors, on a là déjà les prémices de loi de conservation.
Si vous voulez, tout ça est né du fait qu'on s'est aperçu que l'on pouvait, dans certaines circonstances bien précises, tirer de l'énergie utile. Quand je dis de l'énergie utile, ça veut dire qui permet de faire, d'accomplir des mouvements, de soulever des charges, de faire rouler un véhicule, qu'on pouvait extraire de l'énergie utile de la chaleur. Alors, l'énergie utile, on appelle ça en thermodynamique le travail, et d'un autre côté, il y a une énergie qu'on ne sait pas utiliser, en tout cas pas de manière simple et pas de manière évidente, qui est la chaleur. Et donc, la thermodynamique est née de la constatation qu'il y avait ces deux formes d'énergie. L'une utilisable, alors aujourd'hui, il y a énormément de formes utilisables. Il y a l'énergie de mouvement, il y a l'énergie chimique, nucléaire, gravitationnelle, électrique, électromagnétique, de rayonnement. Et il y a une forme inutilisable qui est la chaleur. Pas tout à fait inutilisable parce que justement le second principe de la thermodynamique montre, exprime comment dans certaines circonstances tout à fait particulières, on peut extraire de l'énergie de la chaleur, c'est-à-dire transformer de l'énergie calorifique, simplement des corps à haute température, en énergie de mouvement, et c'est le principe de la machine à vapeur. Donc, finalement, la mise en place de toute la thermodynamique, qui est la science de l'énergie, mais aussi de l'entropie, de la température, de la chaleur, etc., toute la mise en place de la thermodynamique, c'est finalement pour mettre au point ce qu'on appelle la machine à vapeur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les moteurs de nos voitures, les voitures thermiques, de tous nos véhicules, les centrales nucléaires, les centrales chimiques, tout ça, ce sont des machines à vapeur perfectionnées. On a remplacé le charbon, justement, par le pétrole ou par les atomes d'uranium. Et on a remplacé la vapeur d'eau par un fluide qui peut être tout simplement le même fluide que celui qui explose, c'est-à-dire, par exemple, les vapeurs de pétrole. Mais tout ça, ce sont des machines à vapeur. Et des machines à vapeur, il y en a partout, et elles sont perfectionnées. Mais on est toujours quasiment dans le règne de la machine à vapeur, sauf justement avec les nouvelles formes d'énergie qui sont, je dirais, l'énergie du rayonnement solaire et l'énergie éolienne que l'on arrive à capter directement. Et le grand avantage de ces énergies par rapport aux autres, c'est qu'on en a une utilisation directe. C'est-à-dire, quand on a, par exemple, une cellule photovoltaïque, on utilise directement le rayonnement solaire. Alors que si vous êtes dans une centrale, par exemple, chimique, qui brûlait du pétrole ou de l'uranium, c'est pareil, vous êtes obligé d'abord de transformer cette énergie en chaleur. Ensuite, cette chaleur, par l'intermédiaire d'une machine à vapeur perfectionnée, vous la transformez en mouvement par une turbine. Ensuite, ce mouvement, par l'intermédiaire d'une dynamo, vous le transformez en énergie électrique. Cette énergie électrique, vous la transformez.
Avec ensuite, à chaque fois des rendements qui ne sont pas égaux.
Et oui, alors chaque fois, vous perdez de l'énergie. Et non seulement vous perdez de l'énergie, mais vous allez, par exemple, une centrale électrique ou nucléaire, vous allez réchauffer l'environnement d'une manière qui n'est pas toujours très sympathique pour nos rivières, par exemple. Et puis vous allez laisser des déchets. Enfin voilà. Donc chaque fois qu'il y a plus il y a d'étapes, si vous voulez, dans l'utilisation d'une source d'énergie, plus le rendement est mauvais à la fin, bien entendu.
Alors souvent on confond l'énergie et la puissance. La puissance, ça se mesure en watts. L'énergie, ça se mesure en joules. Mais ce qui est curieux, c'est que James Watt, qui a donné son nom à l'unité de puissance, lui, il avait proposé une autre unité pour mesurer la puissance, qui est le cheval vapeur. Parce que son but, c'était de vendre des machines à vapeur à des paysans, et donc il avait utilisé une unité qui mélange à la fois l'animalité et la mécanique. Un cheval vapeur, c'est 750 watts, c'est à peu près 7 fois l'énergie, enfin la puissance que consomme un corps humain pour son métabolisme.
Oui, c'est une bonne unité pour notre vie. Mais c'est pas du tout étonnant, parce que avant que, justement, on découvre qu'on pouvait extraire de l'énergie de la chaleur, c'est-à-dire avant les débuts de la thermodynamique, la seule source d'énergie dont nous disposions, c'était l'énergie des muscles des animaux, et ça peut être des animaux particuliers que sont les humains, mais chez nous c'était surtout les chevaux, les bœufs, quelque chose comme ça. Donc c'est pas du tout étonnant que la référence de l'énergie soit le cheval. Et effectivement, je l'ai souligné là-dedans. Alors en même temps, on utilisait déjà l'énergie solaire, parce que l'énergie solaire, elle nous chauffe déjà, donc c'est quelque chose qui nous empêche de mourir de froid, donc c'est déjà pas mal. Mais on utilisait aussi l'énergie des cours d'eau et des courants d'air avec les moulins aériens ou aquatiques.
Comment est-ce que ça marche, Marc Lachaiserie, une pompe à chaleur?
c'est un peu compliqué.
Un petit oral d'agrégation.
Justement, une pompe à chaleur, c'est quand même extraordinaire, parce que finalement, c'est un peu paradoxal, parce que c'est un cas où on arrive à extraire de l'énergie utile, par exemple de l'énergie qui va faire marcher un moteur ou quelque chose comme ça, de la chaleur. Mais là, c'est encore plus subtil, c'est que finalement, on a l'impression de vaincre le second principe de la thermodynamique. Le second principe de la thermodynamique, il nous dit quoi ? Il nous dit que on peut utiliser de l'énergie, je vais dire calorifique, c'est-à-dire l'énergie qui est stockée dans un matériau à bonne température, à une température assez élevée, parce que plus évidemment un matériau est chaud, plus il stocke de l'énergie. Le problème, c'est que ce que dit justement le second principe, c'est qu'on ne peut utiliser cette énergie finalement, si on est dans un environnement plus froid. On appelle ça la source froide. Et le miracle de la pompe à chaleur, ce qui paraît paradoxal, c'est que on va extraire de l'énergie de quelque chose qui peut être le sol, qui peut être de l'eau, qui peut être de l'air, qui est plus froid que nous-mêmes. C'est-à-dire, on va chauffer une maison à 18 degrés en extrayant de l'énergie du sol qui va être à 10 degrés. Ça paraît totalement paradoxal. Et le truc, c'est qu'en fait, on utilise au passage de l'énergie électrique, c'est-à-dire de l'énergie noble. Alors, je ne vais pas raconter exactement le cycle, parce qu'il faudrait se concentrer et en parler pendant 10 minutes de suite. Mais si vous voulez, ce qui marche de manière extraordinaire, c'est le même principe que le frigidaire d'ailleurs. C'est qu'on utilise le fait qu'il y a une énergie noble dans le circuit, qui est simplement la pompe à chaleur, il faut la brancher sur le courant. Et finalement, grâce à ça, on arrive à utiliser plus d'énergie, à récupérer plus d'énergie que l'on en récupérerait sans cette astuce de mécanisme. C'est-à-dire, si vous prenez simplement un radiateur, vous le branchez, et vous allez consommer, mettons, 1 kWh d'énergie électrique. Vous allez récupérer exactement 1 kWh de chaleur. Avec la pompe à chaleur, en utilisant le fait que l'énergie électrique est une énergie noble, et pour revenir sur la discussion de tout à l'heure, ce qu'il y a de plus bête à faire avec une énergie noble, c'est de la transformer en chaleur. C'est-à-dire, le radiateur électrique, pour un physicien, c'est une aberration. C'est une aberration totale, arriver à transformer une énergie noble en énergie électrique. Et ce que fait...
En chaleur, pardon.
Et ce que fait la pompe à chaleur, c'est justement utiliser le caractère noble de l'énergie, ce qui permet finalement, en consommant 1 kWh d'énergie électrique, de récupérer, par exemple, 2 kWh de chaleur. C'est-à-dire deux fois mieux, ou même
mais
3 fois mieux.
Est-ce que ça veut dire que j'ai le droit de dire qu'un réfrigérateur, c'est une sorte de pompe à chaleur qui chauffe la cuisine?
Exactement. Sauf que c'est pas tellement le chauffage de la cuisine qui l'intéresse. C'est que puisqu'on utilise la chaleur qui est dans une source froide, c'est-à-dire qu'on va récupérer de l'énergie qui aide à la source froide, ça veut dire qu'on refroidit la source froide puisqu'on lui envoie de l'énergie. Et la source froide dans le réfrigérateur, ben c'est justement l'intérieur du réfrigérateur. Donc on refroidit ce qui est déjà froid. C'est la même chose, mais avec une utilité différente.
Vous parlez, Marc Lachaverette, de votre livre, dans votre livre, du lien entre l'entropie et l'information.
Oui.
Alors ça, c'est un lien qui n'est pas direct, et qu'il faut donc expliciter.
Alors, oui, mais ça, encore, je pense qu'il faudrait peut-être une dizaine d'émissions pour expliquer ça de manière très
bien. Mais vous reviendrez, pour la suite.
Voilà, je reviendrai. Et ça, c'est vraiment passionnant. Parce que vous vous demandez, par exemple, pourquoi il y a une partie de l'énergie qui est inutilisable. Cette partie de l'énergie qui est inutilisable, qu'on appelle la chaleur. C'est-à-dire, si vous avez un corps très chaud, comment allez-vous faire pour, par exemple, faire marcher votre moteur? Il faut justement un moteur, c'est-à-dire un dispositif très sophistiqué. Et qu'est-ce qui fait que cette forme d'énergie qu'on appelle la chaleur n'est pas utilisable? Vous avez donné cette citation tout à l'heure qui exprime tout à fait ça. Eh bien, c'est une question d'information. C'est-à-dire, on ne sait pas utiliser cette énergie parce qu'on ne sait pas, je vais dire, comment elle est orientée. C'est-à-dire, la chaleur... Maintenant, on sait très bien qu'elle est due à l'agitation de toutes les petites molécules qui composent le corps que vous étudiez. Et ces petites cette agitation, elle va dans tous les sens. Elle est complètement non maîtrisable. Vous ne savez pas la récupérer. Et qu'est-ce que vous faites, par exemple, quand vous améliorez le rendement d'un moteur? Vous prenez un moteur de voiture, il obéit évidemment aux lois de la thermodynamique, et si vous faites un raisonnement très simple, vous allez dire, oui, bon, je chauffe, c'est chaud, ensuite ça se refroidit, et je récupère la différence d'énergie. Mais si vous regardez l'évolution des moteurs thermiques pendant les dernières décennies, ils se sont améliorés, ils ont amélioré leur rendement. Comment? Pourquoi? Et ils n'ont pas pu vaincre le deuxième principe parce que c'est une loi absolue. Et ben, en fait, on a regardé de manière un peu plus précise ce qui se passe à l'intérieur du cylindre et on a organisé le système pour que les courants de ce gaz, de ce mélange entre l'air et les vapeurs de pétrole, est une circulation beaucoup plus contrôlée à l'intérieur du cylindre, que l'étincelle se passe au bon moment, ce qui fait que on est un peu sorti du royaume de la thermodynamique, parce que quand on fait de la thermodynamique, l'idée c'est qu'on regarde les choses avec un regard très grossier et que l'information à l'échelle microscopique nous échappe. Et dans ce sens, on perd de l'information. Et l'énergie microscopique sur laquelle on n'a pas d'information, il y a un manque d'information, et l'entropie, c'est exactement la quantité qui mesure ce manque d'information.
Si je comprends bien, si on acquiert des informations, on peut améliorer le rendement.
Voilà. Et par exemple, tout dépend du regard. Bon, moi, je fais de la cosmologie. À l'échelle de l'univers, il y a de l'énergie qui joue sur les étoiles, sur les planètes. Eh bien, par exemple, toutes les activités humaines, on considère ça comme une énergie désordonnée, incontrôlable. C'est de la chaleur, c'est de l'entropie. Alors que à l'échelle humaine, évidemment, c'est une énergie qui nous semble avoir du sens. C'est-à-dire, je monte dans ma voiture, je fais un voyage, ça a du sens. Est-ce que ça en a vraiment ? Bon, ça c'est une autre question. Mais toute cette consommation d'énergie que nous faisons à l'échelle du cosmos, ça n'a aucun sens. C'est de l'énergie dissipée, comme on dit. Quand on dit que l'énergie est dissipée, ça veut dire qu'elle est utilisée pour quelque chose qui n'a aucune utilité.
Marc Lajeresse, cette émission est diffusée pour la première fois le 14 mars 2026. C'est donc l'anniversaire d'Einstein.
Ah.
On est donc obligé de parler de la formule E égale MC2.
Très bien.
Et quand on enseigne cette formule, les étudiants sont toujours surpris que l'énergie qui mesure, qu'on appelle l'énergie de masse d'un corps, quand il est au repos, soit mesurée par le produit de la masse du corps, par le carré d'une vitesse, en l'occurrence celle de la lumière.
D'accord.
On se demande qu'est-ce que vient faire une vitesse dans la mesure de l'énergie d'une particule ou d'un corps au repos. Et vous vous dites, quand on écrit E égale MC2, on devrait penser E égale M.
Absolument.
Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je veux dire que ce facteur C2, c'est pas quelque chose qui a un sens physique, c'est simplement un facteur de conversion d'énergie. Pourquoi ? Parce que, prenons une vitesse, qu'est-ce que c'est ? Une vitesse, c'est une longueur divisée par une durée. Les longueurs, on les mesure en mètres. Les durées, on les mesure en secondes. Qu'est-ce que c'est qu'un mètre ? Regardez, la définition du mètre, c'est, je ne sais plus quelle fraction, un millionième, ou je n'ai pas du tout la mémoire des nombres, de la distance parcourue par la lumière en une seconde, qu'on appelle une seconde lumière. Donc le mètre est défini comme une fraction, un nombre donné, de la seconde lumière. Mais la vraie unité fondamentale, c'est la seconde lumière. Donc la vitesse de la lumière, finalement, devrait se mesurer en seconde lumière par seconde. Et évidemment, la vitesse de lumière, c'est 1. Et ça n'a pas de sens. Donc finalement, quand on dit le facteur c'est 2, c'est simplement parce qu'on n'utilise pas les bonnes unités où la vitesse de lumière serait 1. Et finalement, on s'aperçoit ce que dit cette relation. Quand on veut vraiment comprendre ce qu'elle dit. Alors, c'est très compliqué parce que, si vous voulez, les physiciens l'utilisent dans deux sens différents. Mais le sens fondamental qu'a voulu dire Einstein et auquel, alors j'explique dans le bouquin pourquoi on est obligé d'arriver à ce sens-là, c'est que énergie et masse, c'est deux mots pour désigner exactement la même chose. Et si je vous demande, par exemple, quelle est la masse d'un proton, vous allez me répondre...
Un GeV.
Le GeV, c'est pas une unité de masse, c'est une unité d'énergie.
Pour l'auditeur, on précise que c'est un gigaélectronvolt.
Voilà, un gigaélectronvolt. Donc, on utilise les physiciens nucléaires, les astrophysiciens, beaucoup de physiciens, expriment les masses en unité d'énergie, parce que c'est la même chose. Donc, la vraie équation, c'est E égale M. Alors, on a l'habitude E égale MC2, ça sonne super bien. Donc, si vous voulez comprendre cette relation, ça veut dire... La notion de masse et la notion d'énergie, c'est la même chose, c'est ce que dit la relativité. Mais en même temps, alors qu'est-ce que c'est que la masse ? Pourquoi ça a été introduit de manière différente que l'énergie ? Parce que la masse, c'est, comme l'a dit Newton, ce qui engendre la gravitation. Du moins, ce qu'on appelle la masse gravitationnelle. Donc, ce qui engendre la gravitation... A priori, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'énergie qui permet de chauffer, qui permet de faire marcher un moteur. Ça n'est justement qu'au XXe siècle que cette identité a été comprise. Donc c'était tout à fait naturel d'utiliser deux unités différentes. Et c'était tout à fait naturel pour Einstein de mettre ce facteur C2, parce que personne n'avait l'idée à l'époque de mesurer les vitesses en...
Mais dans son article de 1905, il écrit donc la formule E égale MC2 avec des unités qui, enfin des notations qui étaient différentes à l'époque. Mais il dit cette relation doit demeurer vraie, même si aucune lumière n'est mise en jeu dans le processus par lequel le corps perd de l'énergie.
Bien sûr, bien sûr.
Donc il avait bien compris que c'était complètement indépendant de la vitesse de la lumière.
Cette relation, elle est extrêmement profonde. Et quand on parle de l'énergie dans la vie courante, et quand on a parlé de l'énergie jusqu'au XXe siècle, on parlait toujours de fraction de l'énergie d'un corps, de transformation, c'est-à-dire d'énergie relative. On va dire, ce corps perd de l'énergie, il en donne à un autre qui va augmenter son énergie. Mais quelle est l'énergie absolue d'un corps ? Il n'y avait aucune réponse à ça. C'est-à-dire, l'énergie n'était pas vraiment une grandeur, c'est une grandeur qui n'a pas d'origine. La notion d'énergie ne concernait que les variations d'énergie.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas de zéro pour l'énergie ?
Il n'y avait pas de zéro pour l'énergie. Et le zéro pour l'énergie, est apparue justement avec cette relation. Parce que la masse, il y a un zéro. Quelque chose qui a une masse zéro, c'est quelque chose qui n'exerce aucune attraction gravitationnelle. Donc on sait ce que c'est que la masse zéro. Et si la masse et l'énergie, c'est la même chose, eh bien on sait que on sait ce que c'est que l'énergie zéro. Et maintenant, c'est pour ça que je peux vous dire que l'énergie d'un kilo de pétrole, on sait ce que c'est, et on sait que l'énergie utilisable, c'est-à-dire la portion de ce qu'on appellerait l'énergie chimique dans l'énergie d'un kilo de pétrole, c'est quelques milliardièmes.
Alors vous êtes d'accord pour dire que, Marc Lachaiserie, que cette formule E égale M, disons, permet de transformer de l'énergie en masse. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans les collisionneurs de particules.
Bien sûr.
Par exemple, des protons qui entrent en collision, comme au CERN, et on voit apparaître de la masse, donc de nouvelles particules, ou bien, dans les centrales nucléaires, de la masse devient de l'énergie, par la fission des atomes d'uranium,
ou par
la fusion d'atomes plus légers.
Oui, mais justement, vous dites de la masse devient de l'énergie. C'est effectivement un langage que beaucoup de physiciens utilisent, et c'est ça l'ambiguïté que je veux dire. C'est la masse ne devient pas de l'énergie. La masse a toujours été de l'énergie, et l'énergie a toujours été de la masse. Ce qu'on fait souvent, c'est que, par exemple, si je prends une molécule est faite d'atomes, et on va dire, quelle est l'énergie de la molécule? On va dire, il y a la somme des masses de chacun des atomes, et puis il y a l'énergie de liaison entre les atomes. Mais en fait, dans la masse de la molécule, vous comptez tout ça. Et si vous voulez, quand vous parlez de la masse d'une molécule, ou même de la masse d'un atome, il y a une très grande portion, même pour la masse d'une particule dite élémentaire, il y a une très grande portion qui est l'énergie de liaison entre les constituants de la particule.
Vous voulez dire que la masse d'un proton qui est constitué de trois quarks, c'est beaucoup plus que la masse des trois quarks,
absolument,
parce que la liaison entre les quarks est très puissante.
Absolument. Et en plus, ils vont à des vitesses dans le proton très très grandes. Donc, dans ce qu'on appelle la masse du proton, il y a de l'énergie de masse des quarks, il y a l'énergie cinétique des quarks qui vont très vite, c'est-à-dire l'énergie due au mouvement des quarks, et il y a l'énergie d'interaction entre les quarks. Pour la planète Terre, par exemple, je ne sais plus par cœur quelle est la masse de la planète Terre, mais il y a une portion environ un milliardième, je crois, de la masse de la planète Terre, qui est de l'énergie gravitationnelle. Qu'est-ce que c'est que l'énergie gravitationnelle de la planète Terre? Eh bien, prenez un caillou sur la planète Terre, ou prenez une fusée plutôt, prenez un cosmonaute. Vous dites, ce cosmonaute, je veux l'extraire de l'attraction terrestre. Bon, pour ça, il faut que je le mette dans une fusée et que j'utilise de l'énergie pour l'emmener au-delà de l'attraction terrestre, ou en tout cas pas au-delà, mais dans une orbite autour de la Terre. Et ça veut dire que le cosmonaute, il a une portion d'énergie, dans ce cas-là de l'énergie négative, et il faut lui fournir de l'énergie pour compenser cette énergie négative qui finalement le colle à l'attraction terrestre. Donc l'énergie, elle va être fournie par les moteurs de la fusée, on donne de l'énergie au cosmonaute, ce qui lui permet de s'échapper de cette gravitation. Ce qui veut dire que quand vous regardez le cosmonaute qui est sur Terre, par rapport à, si vous mettez le zéro d'énergie dans le vide interplanétaire, il possède une énergie négative. Chacun de nous possède une énergie gravitationnelle négative. Mais c'est vrai pour tous les cailloux qui constituent la Terre. Donc chaque morceau de la Terre, chaque caillou, il a une énergie potentielle négative. Et quand vous additionnez tout ça, vous trouvez l'énergie potentielle gravitationnelle de la Terre. Et quand on parle de la masse de la Terre, cette énergie est comptée dedans. Alors, il se trouve qu'elle est négative, mais elle est comptée dedans.
Qu'est-ce que devient, je pose la question au spécialiste de la relativité que vous êtes, Marc Lachaiserie, qu'est-ce que devient le concept d'énergie dans l'espace-temps?
Alors,
c'est pas une question simple.
Enfin, je la pose quand même. Simple, mais il faut comprendre quand même quelque chose. C'est que, premièrement, il y a un lien très fort entre l'énergie et le temps, qui est déjà présent dans la thermodynamique et dans la mécanique, mais qui est assez peu souligné, qui est bien connu des physiciens spécialistes de la mécanique, justement, et de la thermodynamique, mais il y a un lien. Et, par exemple, cette fameuse loi de conservation de l'énergie, elle est liée à une propriété du temps qui est le fait que le temps soit symétrique. C'est-à-dire, le temps, il s'écoule toujours de la même manière, c'est-à-dire
Il change pas au cours du temps sa façon d'être le temps.
On peut dire ça comme ça.
C'est le théorème de Noether que vous évoquez là.
Voilà, j'évoque le problème de Noether, mais en fait le problème
Madame Noether, Amy Noether, théorème qu'elle publie en 1918, théorème que
extrêmement important.
Einstein salue comme le plus grand théorème de l'histoire de la physique mathématique.
Alors, il a raison, parce que c'est vraiment quelque chose d'absolument intéressant. Mais on peut dire qu'à la lumière de la physique moderne, ce théorème a été un peu réinterprété, c'est-à-dire redémontré, réénoncé dans un langage mathématique qui n'existait pas à l'époque de Madame Notaire, qui est celui de la géométrie symplectique, ou si vous voulez, de la géométrie hamiltonienne, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cela résulte du fait qu'il y a un lien très profond entre l'énergie et le temps, un lien qui va être encore plus fort en physique quantique. On parlera peut-être
on en parlera tout à l'heure. Dans mais d'abord moment. L'espace-temps.
Oui, oui, d'accord. Alors, en relativité, le temps disparaît. Donc, ce lien, qu'est-ce qui devient ? Eh bien, il se trouve que l'énergie disparaît aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire, la quantité. Si vous voulez faire de la thermodynamique dans l'espace-temps, vous ne pouvez plus utiliser l'énergie, parce que l'énergie, et déjà on s'en aperçoit dans la vie courante, parce que dans la vie courante, si je vous demande quelle est l'énergie, par exemple, de ce verre d'eau, ben, l'énergie de ce verre d'eau, ben, il a une énergie de masse, mais il est immobile. Donc, mais il n'est pas immobile du tout, puisqu'il est sur la Terre qui se balade à 30 km secondes dans le système solaire. 30 km secondes, ça veut dire une vitesse qui est assez importante et une énergie de mouvement. Mais par rapport à moi, il a uniquement son énergie de masse. Par rapport à quelqu'un qui serait immobile dans le système solaire, il a une énergie énorme. Donc on s'aperçoit que l'énergie, c'est pas du tout quelque chose qui caractérise un objet, mais c'est quelque chose qui caractérise un objet vu par un observateur. Ouais. Et il se trouve que la théorie de la relativité, elle s'appelle théorie de la relativité parce que justement, elle est basée sur la reconnaissance du fait que beaucoup de choses qu'on croyait absolues sont relatives, à commencer par le temps, d'une certaine manière, si vous voulez parler du temps, mais aussi de l'énergie. Donc l'énergie devient une énergie relative, une notion relative qui n'a pas vraiment d'existence physique. Et il y a quelque chose qui remplace l'énergie qu'on va appeler le quadrimoment, peu importe, mais qui est quelque chose qui, lui, est absolu, qui, lui, a une existence physique, et on s'aperçoit que l'énergie n'est qu'une composante, une manière de voir ce truc. C'est-à-dire, vous allez regarder le quadrimoment, par exemple, d'une étoile qui se balade dans l'univers, vous allez le voir d'une certaine manière, vous allez dire, cette étoile a très peu d'énergie, moi, je vais regarder la même étoile, le quadrimoment, mais d'un autre endroit de l'univers, je vais dire, cette étoile a beaucoup d'énergie. C'est un peu comme quand vous regardez un cylindre, si vous regardez un objet cylindrique selon son axe, vous allez voir la face circulaire. Ah, c'est un objet rond. Tandis que quelqu'un d'autre qui va le regarder dans une direction perpendiculaire va le voir rectangulaire. Donc, le cylindre, il est ni rond ni rectangulaire. Il a une forme cylindrique et sa vraie forme, c'est le cylindre. Mmh. Ben voilà, l'énergie, c'est pas quelque chose qui existe vraiment. C'est la manière dont on voit cet objet.
Donc, est-ce que c'est la raison pour laquelle, dans votre livre, Marc Lacheray, vous dites que la notion d'énergie est mal adaptée à la gravitation, à la cosmologie?
Bien sûr. Et si vous voulez, par exemple, l'énergie, ça ne marche pas du tout pour faire de la thermodynamique dans l'espace-temps et en particulier dans l'univers.
Est-ce que j'ai le droit de dire que l'énergie, que l'univers a une énergie?
Alors, il y a des gens qui essayent de dire ça. Et il y a des gens qui
disent... J'ai réussi à le dire, moi, mais est-ce que c'est vrai?
Oui, alors... Non, mais qu'il a une énergie... Si vous me dites ça, je vais vous dire, alors, quelle est l'énergie de l'univers? Et quand je pose cette question à des gens un peu naïfs, il y en a qui vont me répondre, ah ben, l'univers, il a énergie zéro. Et il y en a qui vont me répondre, l'univers, il a une énergie infinie. Et ils ont tous les deux raison. Ou ils ont tous les deux tort. Parce que, comme je viens de vous le dire, la notion d'énergie, c'est la manière dont quelqu'un attribue cette quantité à un objet. Donc, si j'attribue, moi, qui suis à côté du verre d'eau, une énergie de mouvement au verre d'eau, comme je le vois immobile, j'attribue une énergie nulle. Quelqu'un d'autre qui, lui, est au repos, donc en mouvement par rapport au verre, lui aboutit... Bon, alors maintenant, est-ce que vous êtes en repos par rapport à l'univers ou est-ce que vous êtes en mouvement par rapport à l'univers? Ça n'a pas de sens d'imaginer quelqu'un qui serait en dehors de l'univers et qui regarderait l'énergie de l'univers. Donc, parler de l'énergie de l'univers,
Ça n'a... Autant dire qu'il n'y a pas d'observateur qui puisse donner à cette notion un sens bien défini.
C'est une manière de le dire, bah, on peut le dire d'une manière beaucoup plus précise, mais la notion d'énergie n'est pas définie. Ce qu'on peut accorder à l'univers, c'est quelque chose de plus compliqué qui est un tenseur d'impulsion énergie, parce que d'abord l'univers il est beaucoup plus étendu qu'un simple objet ponctuel évidemment, donc c'est plus du tout de énergie qu'il faudrait parler, mais d'une densité d'énergie, et puis il faudrait dire du point de vue de qui parlerait-on de densité. Donc il y a effectivement un objet qui joue le rôle de l'énergie, qui est complètement associé à l'univers sans ambiguïté, sans équivoque, qui s'appelle son tenseur d'impulsion énergie, qu'on utilise beaucoup en cosmologie, qu'on utilise beaucoup pour mettre au point les modèles cosmologiques, mais ça n'est pas de l'énergie. L'énergie est une notion beaucoup trop simple pour être utilisée dans l'espace-temps et qui est mal adaptée. C'est comme le temps. Si vous dites, est-ce que le temps s'écoule dans l'univers? Bah, la réponse est non. Sauf que vous pouvez fabriquer un truc qui s'appelle le temps cosmique ou le temps sidéral et vous pouvez fabriquer des trucs qui vont ressembler au temps. Mais ça n'est pas le temps non plus. Donc, et c'est pas étonnant que puisque le temps disparaît, la notion d'énergie disparaît aussi. Mais elle est remplacée par quelque chose de beaucoup plus élaboré et de beaucoup plus profond.
Bon, on voit quand même que la situation est compliquée quand on s'intéresse à la relativité générale.
Etienne, mais oui.
Est-ce que, en regardant du côté de la physique quantique, qui est d'une certaine façon contradictoire avec elle, les choses deviennent plus claires? On fête cette année les 100 ans de la mécanique quantique, en tout cas les 100 ans de la publication par Erwin Schrödinger de sa fameuse équation. Or, vous le citez dans votre livre, Marc Lachaisier, Schrödinger a dit « Un système quantique ne ressent aucun passage du temps ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là?
Alors, cette question, bon, là, on dévie un peu parce que on parle du temps plutôt que de l'énergie, mais comme je vous ai dit,
on a vu que c'était lié.
Voilà, c'est très lié, et ce lien est particulièrement prononcé en physique quantique pour trois raisons. La première raison, c'est que à chaque, chaque particule d'énergie E est associée une fréquence. E égale H nu, nu c'est la fréquence, donc une fréquence qui modulo une constante est égale à l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie d'une particule élémentaire, elle est réinterprétée comme une fréquence. Une fréquence c'est l'inverse d'une durée, c'est l'inverse d'une période. Une période c'est une durée, donc à chaque énergie est associée une durée. Qu'est-ce que ça veut dire que à la notion d'énergie est associée une notion temporelle qui est la notion de durée? Deuxième point, c'est que la physique quantique se caractérise par ce qu'on appelle les relations d'incertitude ou d'indétermination qui énoncent que entre deux quantités qu'on va appeler conjuguées, il y a une relation qui dit que si on connaît l'une assez précisément, on va forcément connaître l'autre beaucoup moins précisément. C'est-à-dire le produit des incertitudes est nécessairement supérieur à une certaine valeur qui est liée à la constante de Planck, qui est la constante fondamentale des phénomènes quantiques. Bon, donc l'énergie et le temps étant, comme je l'ai dit, des quantités conjuguées, dans un sens un peu particulier...
Pas vraiment, parce que le temps, il n'y a pas d'opérateur associé au temps.
Nous sommes d'accord.
On ne va pas chipoter, mais quand même.
Non, mais justement, c'est très intéressant. Si on veut parler de l'énergie, si on dit que l'énergie est infinie, est définie, il faut savoir qu'est-ce que veut dire cette relation d'incertitude avec le temps, qui lui n'est pas défini comme un opérateur. Mais justement, il y a un grand problème en physique quantique, que vous avez soulevé, qui est qu'on ne sait pas définir un opérateur temps. On sait définir un opérateur énergie apparemment, mais pas un opérateur temps. Alors, il y a plusieurs manières de prendre la chose. La manière toute simple, c'est de dire, mais dans la physique normale, il n'y a pas d'opérateur temps non plus. C'est-à-dire, vous pouvez faire la mesure que vous voulez sur un objet, vous n'aurez jamais un appareil qui va vous dire, voilà, cet objet, il existe le 20 juillet à 17h30. Il n'y a pas, même en physique ordinaire, même en relativité, encore moins, d'opérateurs qui vous disent qu'on pourrait appeler l'opérateur temps. Donc, c'est pas du tout surprenant qu'il n'y en ait pas en physique quantique non plus. Alors, il y a des gens qui essayent de dire qu'est-ce que ça pourrait être un opérateur temps, parce qu'on a envie quand même qu'il y en ait un, et on a envie de repérer l'évolution des systèmes quantiques avec quelque chose qui pourrait s'appeler le temps. Par exemple, quand on a l'équation de Schrödinger qui vous exprime comment évolue un système quantique, cette équation, elle est exprimée avec une quantité T qui serait le temps. Mais qu'est-ce que c'est que ce T qu'il y a dans l'équation de Schrödinger? On ne sait pas. En fait, on appelle ça le temps, mais c'est une espèce de paramètre qui n'a pas vraiment de sens physique. C'est parce que si on veut, par exemple, le mesurer, ben on s'aperçoit qu'on est obligé d'utiliser une horloge. Mais une horloge, la plupart du temps, si je puis dire, c'est un appareil qui n'est pas quantique, qui est votre montre, par exemple. Donc, vous devez faire interagir votre système quantique avec cette horloge qui n'est pas quantique. Et vous savez que quand un système quantique interagit avec un système non quantique, qu'on appelle un système classique, il perd son caractère quantique, c'est ce qu'on appelle la décohérence. Donc on ne peut pas s'en sortir. Donc ce qu'on essaye de faire quand on veut parler du temps en physique quantique, alors d'abord on ne va pas parler du temps, on va parler de quoi ? On va parler de la durée d'un phénomène quantique. Par exemple, vous savez que en général, les systèmes quantiques, les atomes par exemple, sont soumis à ce qu'on appelle les sauts quantiques. Les atomes ont plusieurs niveaux d'énergie, haute énergie, basse énergie, et quand un atome passe d'un niveau de basse énergie à un niveau de haute énergie, il faut pour soi qu'il reçoive la différence d'énergie, en général sous forme d'un rayonnement. Et comment se passe cette réaction ? On appelle ça un saut quantique, parce que l'atome saute vraiment d'un état de basse énergie à un état de haute énergie. Pendant longtemps, les physiciens ont cru que ce saut quantique était une sorte de phénomène instantané, que d'ailleurs on comprenait mal, et la citation de Schrödinger fait un peu allusion à ça. Il y a eu beaucoup de débats. Aujourd'hui, il y a des expériences qui prétendent mesurer la durée d'un saut quantique qui n'est pas du tout un phénomène instantané, mais qui se mesure en fractions de secondes extrêmement petites. Bon, enfin, c'est assez compliqué. On ne sait pas vraiment répondre à ces questions, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment si on peut appliquer une notion de durée à un phénomène quantique comme un saut quantique.
Mais est-ce que dans le domaine quantique, Marc Lajeuneret, la notion d'énergie garde un sens, disons, plus clair que celui qu'elle n'a plus dans le domaine de la relativité générale ou de la cosmologie ?
Alors, oui, parce que quand vous avez un système quantique, si vous voulez le faire évoluer, en général, il va évoluer d'un certain état d'énergie à un autre état d'énergie. Et donc, pour ça, soit vous allez lui fournir de l'énergie, soit il va vous fournir lui-même de l'énergie sous forme de rayonnement. Et si vous ne pouvez pas mesurer l'état du système quantique, vous pouvez mesurer l'énergie que vous avez fournie pour le faire évoluer ou l'énergie que vous avez reçue quand il a évolué. Et donc, l'énergie que vous avez reçue, c'est l'énergie qu'il a perdue. Donc, voilà comment on va finalement contrôler, mesurer l'énergie d'un système quantique. Mais rappelez-vous que quand on faisait de la thermodynamique, parce que bon, quand on va parler d'énergie quantique, évidemment, on a envie d'appliquer toutes les lois de la thermodynamique, l'entropie, la chaleur, tout ça, la température, à un système quantique. Le problème, c'est que l'entropie, c'est le manque d'information. L'entropie, dans le sens thermodynamique, c'est le manque d'information que l'on a sur un système thermodynamique.
Donc vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas d'entropie dans le monde quantique, puisqu'on a l'information sur les états des systèmes.
Justement, c'est ça. Oui, il y a de l'entropie. Et même l'entropie d'un système quantique, curieusement, c'est quelque chose qui est mieux défini que l'entropie d'un système classique. Mais c'est paradoxal. Parce que, par exemple, que ça soit l'énergie ou l'entropie d'un système thermodynamique classique, ça semble assez simple que quand vous avez un système qui a une certaine énergie, vous avez à côté un autre système qui a de l'énergie, si vous considérez la réunion des deux systèmes, vous allez dire ça a deux fois le double d'énergie. Bon, c'est complètement faux. C'est tout à fait vrai à votre échelle, à notre échelle, mais par exemple, c'est complètement faux dans les accélérateurs de particules. L'énergie de deux particules qui vont l'une sur l'autre est très très loin et beaucoup plus élevée que la somme des deux énergies de chacune. Enfin bon, voilà, c'est une idée fausse que l'on a. C'est comme l'idée que les vitesses s'additionnent. Les vitesses s'additionnent apparemment, approximativement, dans notre environnement. Elles ne s'additionnent pas du tout dans un accélérateur de particules, dans l'espace-temps, bon, voilà. Donc, si vous voulez, on a l'habitude d'utiliser dans la physique courante des lois qui, en physique fondamentale, ne sont pas du tout valables. Et alors, par exemple, en physique quantique, on parlait d'entropie. Et là, c'est extraordinaire parce qu'il se trouve qu'il y a des situations où vous avez un système quantique, par exemple, qui a une entropie zéro. Vous coupez ce système en deux et chaque moitié a une entropie énorme. Donc, non seulement ça s'ajoute pas, mais d'une certaine manière, ça se reprend. C'est sous-additif, comme on dit. C'est complètement paradoxal. Et en fait, ça s'interprète parce qu'en physique quantique, il y a des corrélations qui sont sous une forme tout à fait, on va dire, bizarre quand on regarde ça avec le sens commun. On appelle ça l'intrication.
L'intrication quantique. L'intrication.
Donc l'entropie mesure d'une certaine manière l'intrication. Donc quand vous avez un système global, il peut arriver qu'il ne soit pas intriqué, mais que les deux moitiés qu'il compose soient intriquées l'une à l'autre.
Mais alors Marc Lachaise, si je vous comprends bien, dans le cas de la cosmologie et de la gravitation, c'est pas clair. Dans le cas de la physique quantique, c'est pas très clair non plus.
Alors,
Le défi des physiciens théoriciens comme vous, c'est de tenter d'unifier la physique quantique et la gravitation.
Bien sûr.
Est-ce que dans cette tentative d'unification, les choses s'éclaircissent ou au contraire, confusions s'ajoutent, voire se multiplient?
Je vous corrige quand même, parce que vous avez dit en relativité dans l'espace-temps, c'est pas clair. Non, c'est très clair. L'énergie n'est que quelque chose de relatif qui n'a pas vraiment de pertinence. En physique quantique, c'est vrai que c'est pas clair et il y a des choses qui ont l'air tout à fait paradoxales et on ne sait pas comprendre. On s'aperçoit que l'énergie est tout à fait liée à l'entropie, que l'énergie est tout à fait liée aux propriétés quantiques qui s'appellent la superposition, qui s'appellent l'intrication, etc., d'une manière qu'on n'arrive pas très bien à contrôler. Maintenant, vous dites qu'on n'arrive pas à unifier les deux. C'est tout à fait vrai. Est-ce qu'il faut les unifier ou pas? Je sais pas. En tout cas, il faut arriver à les mettre d'accord. Il y a des tentatives de quantifier la gravitation. Je suis pas sûr que ça soit la bonne méthode. Mais il y a aussi simplement des tentatives de comprendre la physique quantique parce qu'on la comprend pas. Parce que, par exemple, une question toute simple en physique quantique, ça serait de dire quelle attraction gravitationnelle exerce une particule quantique? Vous savez que la particule quantique, d'une certaine manière, elle est délocalisée, c'est-à-dire, pour dire les choses dans un langage un peu familier, elle est à la fois à droite et à gauche. Quand elle exerce une interaction gravitationnelle, est-ce que l'interaction est dirigée vers la droite ou vers la gauche? Ou au milieu où il n'y a rien? Bon, on ne sait pas comment ça se passe.
Alors, votre question, c'est est-ce qu'une particule crée de la gravitation, finalement? On peut inverser la question en se demandant s'il y a un champ quantique est capable de graviter.
Un champ quantique, oui, bien sûr qu'il est capable de graviter, parce que la notion de champ quantique, elle est liée à ce qu'on appelle la théorie quantique des champs. Et selon la théorie quantique des champs, qui est une théorie qui semble assez bien vérifiée dans ses grandes lignes, tout ce qu'on appelle matière, tout ce qu'on appelle rayonnement, ce sont des champs. Ce sont des champs quantiques. Donc, comme on voit que ça gravite, oui, les champs quantiques gravitent. Une question qu'on se pose, c'est qu'un champ quantique peut être dans un état particulier qu'on appelle le vide quantique.
L'état d'énergie minimale, comment
oui,
on le définit?
Oui, justement, c'est pas facile de dire ça, parce que l'énergie d'un état quantique, on ne sait pas ce que c'est. En tout cas, c'est l'énergie, c'est l'état de symétrie maximale, où on peut le définir d'une manière plus technique, c'est l'état qui annihile un certain opérateur, bon, peu importe, mais il se trouve que quand moi je suis dans le vide, un autre observateur va avoir l'impression, en regardant le même vide que moi, que c'est pas vide, que c'est plein de particules.
Là, vous parlez du vide quantique. Quand vous dites je suis dans le vide, c'est dans le vide quantique, pas dans le vide au sens commun du terme.
Oui, le vide quantique. Mais on sait pas vraiment ce que c'est que le vide quantique. Et quand on essaye de calculer son énergie, on trouve une valeur infinie. Et donc, est-ce que cette valeur infinie a un sens ou pas? Ou bien, est-ce que l'énergie du vide, c'est zéro? Est-ce que c'est l'infini? Est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas du tout répondre à cette question. Et quand on est en théorie quantique des champs, on ne sait pas du tout ce que c'est que l'énergie d'un champ quantique. Et on a plusieurs manières de le définir. On sait que la théorie ne peut pas le dire. Donc, il faut une nouvelle théorie pour dire ça. Mais moi, la position que j'essaye de défendre, c'est que de dire, avant d'essayer de définir ce que c'est que l'énergie d'un champ quantique, essayons de définir simplement ce que c'est que l'énergie d'une particule élémentaire, par exemple d'un électron, et comment un électron, quand on le regarde quantiquement, comment gravite-t-il? Est-ce que, s'il est à la fois à droite et à gauche, est-ce qu'il va attirer l'électron voisin vers la droite ou vers la gauche? Je veux dire gravitationnellement. Prenons des neutrons, parce que les neutrons sont pas chargés électriquement. Et donc, en ce moment, on essaye de faire des manips, de monter des manips. On arrive au degré de précision qui pourrait peut-être permettre ça dans les années ou dans les décennies qui viennent, où on essaye d'analyser les effets gravitationnels à l'échelle quantique pour en tirer des renseignements sur cette fameuse unification que beaucoup de physiciens, théoriciens cherchent dans le monde.
Alors justement, moi je m'adresse maintenant, Marc Lachaiserey, au théoricien que vous êtes en cosmologie. Mm-hmm. Il y a une énergie dont on parle beaucoup, l'énergie dite noire. Est-ce que d'après vous, elle mérite son nom d'énergie? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre par l'adjectif noir auquel on la colle?
Alors, il faut comprendre que l'énergie noire, dans notre physique, ça n'existe pas. C'est-à-dire, le concept d'énergie noire a été introduit pour expliquer quelque chose, un fait bien précis, qui est le fait que l'expansion de l'univers
s'accélère.
Mais pour valider ce concept d'énergie noire, il faut modifier la physique. C'est-à-dire, il faut inventer une nouvelle physique quantique, par exemple une nouvelle physique quantique dans laquelle on arriverait à définir l'énergie d'un champ quantique à une valeur qui ne serait pas infinie. Il y a eu des tas de propositions là-dessus, il y en a encore, il y en a eu des centaines. Bon, pour le moment, ça ne marche pas. Donc pour le moment, pour moi, c'est quelque chose qui est en dehors du domaine de la physique. C'est une espèce de spéculation.
Disons que c'est le nom d'un problème. C'est le fait de baptiser
un problème.
Oui, voilà,
c'est le nom d'un problème. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. Parce que, enfin, en ce qui concerne l'énergie noire, si vous voulez, dans la théorie de la relativité générale, il y a deux versions de la relativité générale. Celle de 1915, celle de 1917. Dans celle de 1917, il y a une constante qui s'appelle la constante cosmologique, qui, jusqu'à nouvel ordre, explique parfaitement cette accélération de l'univers, qui avait même été prévue bien avant qu'on la découvre observationnellement. Je vais pas m'étaler parce que je vois que on est proche de la fin. Mais
le temps passe. Il existe donc.
Oui, le temps
ici.
Passe. Alors oui, bon, ça sera le sujet d'une autre émission, cher Étienne. Donc voilà. Mais oui, l'énergie noire n'existe pas dans la physique, mais peut-on modifier la physique pour faire exister ce concept d'énergie noire? Peut-être, un jour. Attendons.
Donc là, vous avez fait un travail critique autour du concept d'énergie. Est-ce que ce travail, une fois achevé, permet de continuer à parler d'énergie? Ou est-ce que c'est un concept qu'il faudrait tellement remanier qu'il faudrait mieux l'abandonner tel qu'il est?
Alors, bon, c'est sûr que dans l'espace-temps, quand on regarde les choses à grande échelle, à l'échelle de l'univers et tout, il n'a plus cours. Par exemple, il faudrait associer de l'énergie au champ gravitationnel lui-même et tout. Les équations en tiennent compte, mais pas de la manière dont on en parle. En revanche, en physique quantique, on touche aux choses vraiment, on touche au fondement des choses, comme vous dites, et il y a beaucoup de théoriciens qui essayent de définir une thermodynamique quantique. Et on s'aperçoit que, en physique quantique, la notion d'énergie est très liée à celle d'entropie, qui elle-même est très liée à celle d'information. Et si on réussit à faire une thermodynamique quantique, on va en même temps certainement faire une thermodynamique de l'information. Les deux choses seront liées. Et on s'aperçoit que cette notion d'information est très liée à la notion d'énergie. Donc, si vous voulez, moi, en écrivant ce livre, je me suis aperçu de plusieurs choses qui étaient le lien, d'une part, comme je l'ai dit au début, de l'énergie avec le temps. On n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup en physique quantique, mais il est extrêmement puissant en physique quantique. L'énergie avec la gravitation, puisque ce que dit la physique quantique, ce que dit la relativité et la physique de l'espace-temps, c'est que l'énergie se confond avec la masse, donc c'est ce qui engendre la gravitation, et ce qui réagit aussi d'ailleurs à la gravitation. Et en physique quantique, on s'aperçoit que la notion d'énergie est extrêmement liée aussi à la notion d'information. Donc on voit qu'il y a toutes ces notions qui, dans notre conscience, dans notre manière de voir les choses, sont vraiment des choses différentes, et qui pourtant apparaissent très liées. Je pense que ce qui manque à la physique d'aujourd'hui, c'est l'exploration plus profonde de ces liens. Notamment le lien entre, par exemple, fréquence et énergie, puisque une énergie, c'est une fréquence à une constante près. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment ce lien?
On va en rester à cette question fondamentale, Marc Lachaiserey. Le temps a passé. Je vous remercie d'être venu à l'émission, d'autant plus que votre voix me semble légèrement enrouée. Et vous avez dépensé pour parler plus d'énergie que d'habitude. Absolument. Je recommande très vivement la lecture de votre livre qui vient de paraître chez Dunod, qui s'intitule « Insaisissable énergie ». C'était donc la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp à la réalisation et la mise en onde, soit de Boukhorsa.